Vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la bouquinerie jeunesse pour la dernière fois.
Il existe une contrée secrète où se cachent des trésors littéraires invisibles aux plus de 18 ans. Perdus dans une forêt de livres pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 8, sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Je suis super contente et en même temps un peu émue de vous retrouver aujourd'hui pour la toute dernière émission de la bouquinerie jeunesse. Je suis donc bien sûr avec Léa.
Hello, sniff sniff.
Christelle.
Coucou.
Et Nathan.
Salut, c'est trop triste.
Et oui, après 35 émissions, dont un best-of et deux en direct, 5 saisons radiophoniques, plus de 200 ouvrages chroniqués et une cinquantaine d'invités passés derrière notre micro. Auteurs, illustrateurs, scénaristes de BD, éditeurs, journalistes, universitaires et fans de littérature jeunesse sont venus discuter avec nous. Ça fait donc 7 ans de radio, de rencontres, d'amitié, d'émissions en studio, d'enregistrements en direct et en public, et d'émissions confinées sur Zoom et Teams, d'un format mensuel à un dimanche sur 4. Alors c'est clair que le paysage sonore autour de la littérature jeunesse, il a bien changé en fait en 7 ans. Quand on a commencé, il n'y avait globalement pas grand-chose en podcast ou en émission autour de la littérature jeunesse. Alors qu'aujourd'hui, y a plein d'initiatives super qui sont nées, que ce soit côté des éditeurs, je pense aux grands de l'école des loisirs, des institutions, il y a la BNF qui a fait un podcast, et des initiatives individuelles qui ne sont pas forcément sur la jeunesse, mais avec des interviews d'auteurs et plein de tips et tout sur l'écriture, sur la lecture, la littérature. Je pense là, procrastination, les mots raturés, paroles de plume, bref. Le paysage sonore, il a bien évolué, et nous aussi. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un dernier épisode sans invité, pour conclure tous ensemble ces 7 années de folie autour de notre passion pour la littérature jeunesse. Est-ce que ça vous va comme programme?
Ouais. Ça nous va carrément.
Donc du coup, ce que je vous propose, c'est... ce qu'on se dit un peu avant de lancer le vrai enregistrement, c'est qu'on va faire un peu... On va reparler en fait un peu de toutes les saisons, donc des 5 saisons, et on va évoquer tous ensemble nos souvenirs. Donc à chaque fois, je vais vous redire pour que vous, auditeurs, vous vous souveniez avec nous des invités qu'on a reçus. Donc je vais vous énumérer un peu en liste à la Prévert par saison tous les invités, histoire qu'on se les remette un peu ensemble tous en tête. Je pense que la saison 1, on s'en souvient tous. On va y revenir très vite, surtout du premier épisode. Mais en saison 1, on avait reçu donc Anne-Laure Bondeau, Nîmes Gorman, Samantha Bailly, Hélène Montardre et Noémie Bélanger, Éric Lhomme, Anne-Fleur Multon, Fanny Ducassé, Alexandre Chardin, Robin Hobb. On avait ensuite fait une spéciale Harry Potter où on avait reçu donc dans la même émission qu'on avait croisée avec une autre émission qui s'appelle La Bouquinerie, Julia Thévenot, Anne-Fleur Multon, Benoît Virol, Charline Queillas et Xavier Dalméda. Tout ça, c'était la saison 1, c'était en 2016, vous vous souvenez? 17.
Quelle saison? Je crois que la plupart de mes plus gros souvenirs viennent de cette saison, en fait.
Ouais, je comprends. C'était la première, on lançait le truc. C'était hyper différent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était... Déjà, on n'avait pas du tout les mêmes rubriques, en fait. On faisait intervenir les gens.
J'ai replongé un peu dans les archives de l'émission avant qu'on fasse l'émission. D'ailleurs, je pense que tu vas le rappeler, mais on peut peut-être dire à tout le monde que toutes les émissions sont disponibles en podcast. Donc, si on vous manque déjà, vous pouvez aller les redécouvrir, notamment toutes celles-ci avec des invités complètement fous. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait des rubriques, on faisait des lectures communes, on faisait l'actualité de la littérature jeunesse. On s'était lancé dans un truc un peu énorme qu'on a un peu rétréci après pour être plus efficace aussi dans les différentes rubriques qu'on avait. Mais les premières, on faisait plein de trucs, c'était ouf.
Moi, je me souviens que dès la toute première émission, j'avais déjà grugé, puisque j'avais présenté un livre qui n'était pas tout à fait de la littérature jeunesse, mais en regardant, il était quand même, je crois, publié chez un éditeur jeunesse quelque part. J'avais présenté L'Assassin Royal. Ouais.
Yes.
Parce que je ne savais pas que j'aurais 6 ans ou 7 ans devant moi pour parler de tout. Donc, j'ai dit, s'il n'y en a qu'une émission, je vais absolument parler de ce livre. Donc, voilà, j'ai parlé de L'Assassin Royal comme roman, puisque déjà, à l'époque, on se les répartissait comme ça, je crois. Hein. Moi, les romans, Laetitia, tu faisais la coordination, Léa, tu faisais les BD, manga, et Nathan, les albums. Hein. Ça, je crois que ça a été un peu dès le début. Et ce qui est beau, c'est que la boucle a été bouclée à la fin de la première saison, puisque j'ai commencé le livre et on a reçu Robin Hobb en tout dernier dans la saison 1.
Oui. Robin Hobb, moi, je l'ai noté dans les trucs un peu fous, quoi. Enfin, c'était quand même dingue de rencontrer cette autrice culte et de l'interviewer pour notre émission de radio qui, à l'époque, on n'était qu'à sa première saison. Donc,
non, mais c'était ça, complètement dingue. C'était un truc de malade. Moi, je m'en souviendrai toujours aussi. Et en plus, là, pour le coup, on avait dû un peu pareil, gruger, dire parce que Robin Hobb, littérature jeunesse, oui, bon. Et en même temps, on nous a proposé ça. Les gars, on ne pouvait pas dire non, vous comprendrez. Non, vous comprendrez qu'on a dû trouver un moyen de faire oui, oui, il y a un lien, c'est bon.
Moi, je me rappelle qu'on avait eu tout un délire logistique après, et en vrai, c'était hyper intéressant de traduction, de réenregistrement, du coup, pour que les auditeurs français aient la traduction. Et c'était techniquement et intellectuellement, c'était vraiment intéressant de faire ça aussi et d'adapter quoi.
Exactement, je me souviens qu'on a fait, effectivement, on a vu tout un travail, donc on l'a fait traduire, c'est Marlène qui a traduit, merci encore à elle, et ensuite on est allé en studio enregistrer les questions et les réponses avec des gens de notre entourage, des amis en fait, qui sont venus en studio lire la traduction, qu'ensuite moi j'ai au montage superposé avec la voix, donc j'ai histoire, enfin en plus c'était tout un truc parce qu'il fallait qu'on entende, moi j'ai découvert le montage avec la bouquine régionale, j'ai appris à faire du montage, c'est quand même un truc de fou quoi. Du montage audio, du coup, alors d'où la qualité parfois étonnante.
Franchement, ça va, ça va.
Mais du coup, dites-vous que moi, je n'ai pas du tout une formation de ça et j'ai appris à faire ça. Du coup, typiquement là, voilà, il fallait qu'on entende quand même la voix anglaise, mais qui est par-dessus, enfin, un peu que ça fasse un peu pro, quoi.
Ça faisait pro, Laetitia. En tous les cas, ouais, c'était une sacrée expérience. Et donc, toi, tu avais déjà une expérience des plateaux de radio, Laetitia. Mais moi, avant d'arriver, de débarquer à la bouquinerie jeunesse, en fait, je n'avais jamais été dans un studio d'enregistrement de ma vie aussi. Et c'est sur ça que... Enfin, moi, c'était ça mon truc le plus énorme de la saison 1. En fait, c'était de découvrir tout cet univers radiophonique qui est passionnant, avec nos réalisateurs à chaque épisode, avec les codes, tous les codes du métier, les termes, le vocabulaire. Ça aussi, c'était une sacrée aventure. Et j'ai vachement appris. Et c'était hyper formateur et hyper cool. Voilà.
Oui, c'est vrai parce que... Oui, vas-y, Christelle.
Tu sais, quand tu arrives dans le studio de radio, en fait, pour la première fois, ou même à chaque émission, en fait, je trouve que ça le refaisait quand on était chacun à notre place autour des micros avec le grand logo Radio Campus Paris derrière. Il fallait bien fermer les portes, fermer les fenêtres, le réalisateur lancer. Je sais pas, ça crée une atmosphère, ça crée une ambiance assez spéciale, en fait, qu'on ne retrouve pas forcément quand on enregistre à distance, comme on a dû le faire, on en reparlera quand on était confiné. C'est vrai que ça, c'était quelque chose... d'un peu extraordinaire quoi, de découvrir cet univers-là.
Carrément, ouais, c'est exactement ça, comme tu dis, c'est que le studio, il est insonorisé, on avait, voilà, il y avait, comme dit Léa, c'est vrai qu'il y a des gestes de radio, donc vous pouvez voir si vous regardez, par exemple, France Inter en direct ou les émissions en replay, vous voyez qu'il y a des petits, effectivement, tu dois communiquer avec le réalisateur, tu as des petits gestes à faire pour lancer un jingle, etc. C'est ça, ouais, les premières saisons, on avait beaucoup plus de petits jingles, les premières émissions, on avait même une coupure musicale, mais ça, je crois qu'on l'avait fait à peine pour la première. Et on avait aussi, souvenez-vous, on faisait intervenir des auditeurs. On a pris des gens au téléphone. Est-ce que vous vous en souvenez?
Oui.
On avait un standard.
Ouais. Donc, on était vraiment sur une émission de radio, quoi. On faisait gagner des livres et on prenait les gens. On leur demandait leur avis. Je ne sais plus trop sur quoi, je dois bien vous avouer, mais on n'avait pas une question à chaque fois.
Peut-être sur le livre, parce que comme on avait un livre en lecture commune dans les premières
émissions. Oui, c'est ça.
Je crois qu'il y a pas mal de blogueurs qui sont intervenus aussi dans ces premières émissions pour donner leur avis sur des livres, effectivement, ou donner l'avis sur le livre qu'on chroniquait tous, parce qu'on avait fait ça sur certaines émissions, on parlait tous d'un livre en commun. Enfin, je me rappelle que c'est arrivé dans les premières saisons.
Exactement. Et est-ce que vous vous souvenez de l'émission, notre toute première émission en direct? Parce qu'effectivement, on avait mis la barre haute, on avait terminé la première saison par une énorme émission de 2 heures en direct, avec nos amis de la bouquinerie, l'émission adulte, on va dire, à l'occasion des 20 ans d'Harry Potter et des 20 ans de Radio Campus Paris.
C'était trop bien, cette émission. Enfin, ça tombait tellement bien. Puis pour conclure la saison, je trouve que c'était vraiment génial. Et moi, j'en ai des souvenirs vraiment... Enfin, je trouve que le plateau, on l'avait bossé avec la bouquinerie. Je trouve que tous nos invités, c'était hyper cohérent tous ensemble. En plus, en vrai, on n'avait eu que des bons clients qui étaient super en interview et qui, par ailleurs, étaient humainement très sympas. Donc, j'ai l'impression que tout était top sur cette dernière émission, quoi. Après, peut-être que c'est enjolivé par le fait que c'est un souvenir d'il y a 5 ans et qu'on est en train de clôturer la bouquinerie jeunesse, mais moi, j'en ai vraiment un très joli souvenir.
Ouais, le lieu dans lequel on avait fait était top, c'était à Montreuil, et en plus on avait fait gagner une intégrale d'Harry Potter offerte par Gallimard, et ça c'était quand même hyper stylé pour des gens du coup qui s'étaient déplacés, qui étaient venus écouter l'émission en direct.
C'est ça, c'était en direct et en public.
Ouais.
Et exactement, on avait un partenariat avec Gallimard, vous vous rendez compte qu'on a fait gagner tous les tomes dans une super belle édition, moi j'étais trop jalouse, j'avais trop envie de les garder, je me disais, si personne ne participe, on les garde, mais bon, évidemment...
Ouais. J'ai un souvenir dans cette émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc il y avait nos chroniques, celle de la bouquinerie, c'était d'ailleurs une énorme organisation, et il y a une fille de la bouquinerie qui avait fait une chronique sur la littérature jeunesse, je crois que c'était ça, non, nous on avait fait une chronique plus sur la littérature adulte, sur la littérature jeunesse, je ne sais plus, on avait croisé, et la fille avait dit, oui, un peu place aux nouvelles voies de la littérature jeunesse, parce que les Marion Murray et compagnie, c'est bon, les vieux de la vieille, Et genre, elle avait clashé des auteurs de littérature jeunesse comme si c'était vraiment des espèces de vieux là, depuis 350 ans, alors qu'en littérature jeunesse, c'est encore des grandes voix qui comptent.
Je ne me souviens pas du tout de ça.
Il faudrait aller réécouter les noms qu'elle avait dit, mais je me rappelle comme tu dis « Pop, 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 ça tire à balle réelle
!» Ça tirait à balle réelle, les pauvres, pauvres Marion Murray qui a consacré toute sa vie à écrire pour les jeunes et qui fait toujours des trucs qui sont hyper pertinents aujourd'hui en plus. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est intéressant que tu soulèves ça, Christelle, parce que ça montre aussi à quel point ce paysage il a évolué. En fait, je pense depuis que nous-mêmes on est jeunes, et à quel point la littérature jeunesse c'est devenu un pilier de la pop culture et quelque chose qui a pris énormément plus d'importance en termes qualitatifs dans les vies de tout le monde, et que les enfants qui naissent aujourd'hui, ils n'auront pas du tout la même littérature jeunesse que celle qu'on a eu nous. Et du coup, de voir des auteurs qui, pour nous, sont des classiques, qui écrivent encore, de les voir un peu démodés, parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite et il y a beaucoup plus de grands noms. Je trouve que c'est hyper intéressant en termes de ce que ça dit du monde, de l'évolution du monde. Voilà.
Et en même temps, je suis d'accord avec le fait que Christelle ait été choquée par ça, parce qu'en littérature jeunesse, je trouve que l'une de ses particularités, c'est justement que le fond vit toujours énormément. Et que les justement aussi peut-être parce qu'il y a on a moins de passifs vu que la littérature jeunesse elle est pas si enfin surtout la littérature ado elle est pas si âgée que ça.
Ouais.
Mais il y a plein d'auteurs justement comme Erin Murray etc qu'on ressort souvent. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir aussi que quand il y a des gros sujets de société qui font un peu le buzz, donc je sais pas l'avortement récemment ou la migration, le Black Lives Matter etc, souvent on va conseiller des livres qu'on va chercher dans les 20 dernières années quoi. Et le fond en littérature jeunesse, c'est méga important, quoi. Et d'ailleurs, dans nos chroniques, on a souvent ressorti des livres qui datent, quoi.
Un autre truc qu'on a découvert pendant cette première saison, alors forcément, on a beaucoup de choses à dire parce que c'était l'année des découvertes, c'était les verres qu'on buvait après avec les invités, en fait.
C'est la troisième mi-temps.
De rencontrer ces personnes-là qu'on connaît à travers leurs textes, qu'on admire, avec qui on échange d'abord voilà, sur un ton plus professionnel pour comprendre leur univers littéraire et tout, bah, d'après les rencontrer de manière plus informelle, c'était extraordinaire aussi de pouvoir d'avoir accès en fait, à ces personnes-là qui nous semblaient peut-être un peu inaccessibles parce que nous, on voyait juste leur nom sur des couvertures de livres. Et en fait, d'avoir Anne-Laure Bondou, cette immense dame de la littérature jeunesse qui, tranquille, vient boire un verre avec nous, reste 2 heures, papote, c'était génial. Quoi.
Mais d'ailleurs, c'est là avec Anne-Laure Bondou dont on n'a pas trop parlé finalement, alors qu'effectivement, c'était la toute première, c'est devenu la marraine de l'émission et que je pense qu'on a tous adoré cette émission. Moi, effectivement, je me rappelle très, très bien de cette soirée-là. Il y a des conversations qu'on a eues après l'émission dont je me souviens encore aujourd'hui. Enfin, je trouve que ce moment, il était assez puissant.
Ouais. Carrément, c'était tellement chouette. Et je me souviendrai toujours de cette photo. vous savez, la toute première photo de l'émission avec le tout premier invité. Et en fait, on était tellement stressés que cette photo, donc, elle était unique et elle était floue. Enfin, elle est toujours, en fait. Il n'y a pas d'autres photos.
Je l'ai revue aujourd'hui sur le site de Radio Campus Paris. Ça m'a fait à la fois rire et ça m'a un peu crispé.
Carrément. Bon, bah, écoutez, je propose qu'on passe à la saison 2.
Ouais.
La saison 2. Nous avions reçu Clémentine Beauvais, Erwan J., Julien Nil, Lilian, Ensuite, on avait fait une spéciale Nuit de la lecture, en direct et en public à nouveau de la Cité des Sciences, avec Lynn Gorman, Marie Alino, Anne-Fleur Moulton, Val Riel et des étudiants de l'école Estienne. Puis, on avait reçu Victor Dixen, Lucie Cosmala, Marie d'Orléans, Lucie Pierre-Apageot, Stéphane Michaka. Et on va dire, mais je ne vais pas trop spoiler pour le moment si on en reparle après, mais on avait aussi fait des interviews à Montreuil où on avait reçu aussi des auteurs en interview très très courte à Montreuil. Voilà, encore une belle saison, la saison 2. On était encore là sur un rythme élevé.
Ben, on a commencé fort, hein, Christelle.
L'émission... me taper la honte auprès de Clémentine Beauvais grâce à vous, hein, je vous en suis reconnaissante, merci beaucoup.
Pourquoi te taper la honte?
Pourquoi? Non, parce que j'admire énormément Clémentine Beauvais, en plus, en fait, je me reconnais beaucoup dans plein de choses qu'elle écrit ou dans son style, etc. Et du coup, je faisais que dire en off pour rigoler, ah, c'est mon âme sœur, Clémentine Beauvais, c'est mon âme sœur. Et du coup, la première chose que vous avez dite quand on a commencé d'enregistrer l'émission, c'était « Alors, Clémentine !» Christelle, elle dit que c'est son âme, ça. Et en plus, elle m'a dit, ah ben moi, je crois qu'elle a dit un truc genre, ben moi, je suis célibataire, il n'y a pas de souci. Je dis, ah ben moi, désolée, je suis déjà prise par contre.
Tu lui as fait un ascenseur émotionnel, Christelle.
Et pareil, après, on allait boire un verre avec elle et c'était trop cool.
Mais c'était, à chaque saison, on commençait hyper fort. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais la première saison, on a invité Anne-Laure Bondou qui, un mois après, recevait le prix oui. Vendredi, qui est un peu le concours de la littérature ado. Et Clémentine, bon, elle ne l'a pas eu finalement, mais si je me souviens bien, mais elle était sélectionnée pour le prix Vendredi. Donc, oui, on avait quand même pendant un temps, on se targuait d'avoir la réputation de,
oui, parce
de
que
découvrir
ça a,
le prix
ça a
Vendredi.
Duré après, effectivement. Non, mais c'est vrai que ça a duré après sur plusieurs saisons. On a eu plusieurs fois les invités qui étaient nominés. Ouais, c'était ouf. On avait le nez creux, c'est tout.
Et celle de la spéciale SLPJ avec Julien Niel.
Ouais, alors voilà, ça quand même. Léa, Nathan, c'est la seule interview que c'est pas moi qui ai faite, je crois.
Ouais, on l'a faite ensemble avec Nathan. Et c'est vrai que moi, Julien Niel, c'est un auteur que j'ai rencontré pour la première fois. J'étais toute ado, je devais avoir genre 14 ans sur un salon. Et je me rappelle avoir été le voir et lui dire... Bonjour monsieur, c'est quoi votre secret pour faire des bonnes BD? Parce qu'à l'époque, mon rêve, c'était de dessiner des BD. Donc, il m'avait répondu à un truc. Il m'avait répondu à un truc de ouf. Il m'avait dit, tu vois, tout ce que les gens n'aiment pas dans tes dessins, tout ce que toi tu trouves peut-être un peu moche, et ben dessine-le parce que, enfin, continue de le faire parce que c'est ça le style d'un auteur en fait. C'est les petits trucs que les gens ils aiment pas trop, qu'ils trouvent un peu moche. En gros, son message c'était c'est dans les défauts, c'est dans ce que tu trouves être tes défauts que tu trouveras ton style. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce qu'à l'époque, je commençais à dessiner. Et c'est un truc que j'ai toujours gardé en tête, ce conseil de Julien Niel. Et franchement, encore aujourd'hui, j'y pense des fois quand je dessine. Et ouais, et voilà. Et du coup, c'était magique, magique de l'interviewer, magique de faire ça avec Nathan qui est fan aussi. Enfin, donne ton avis, Nathan. Mais
je pense qu'il s'est retrouvé avec deux groupies en face de lui qui avaient des étoiles plein les yeux. Mais c'était un super moment. Mais d'ailleurs, moi, c'est marrant parce que ma première rencontre avec Julien Niel, fun fact, c'était pas du tout le même souvenir que j'en avais.
Bah ouais.
Comme c'est un gars assez timide et enfin, en tout cas, qui parle pas trop au premier abord. Et ben, la première fois que j'avais rencontré, je m'étais dit, ouais, bon, il fait un dessin vite fait, puis il ne parle pas trop, quoi. Après, moi, j'étais aussi un tout jeune ado, donc j'imagine que j'étais face à lui et que je bégayais. Mais, mais la première fois que je l'avais rencontré, j'étais content de l'avoir rencontré parce que c'était l'auteur de Doux, mais il ne m'avait pas laissé un souvenir hyper fort. Puis j'avais hyper été revoir à d'autres salons, enfin, à d'autres salons du livre de Montreuil. Et en fait, petit à petit, ben, moi, en grandissant, je pense que je lui parlais plus. Et puis, il a fini par nous reconnaître avec Tom au fil des années. Et du coup, quand on l'a rencontré avec Léa pour cette interview dans un moment un peu plus privé et pour vraiment parler en profondeur de sa BD, là, c'était le paroxysme. Ouais. Donc, on vous invite à aller réécouter cette émission.
C'est trop cool. Une autre émission qui était marquante dans cette saison, c'est celle qu'on a fait du coup, notre deuxième émission en direct et en public. Cette fois, on était pour la nuit de la lecture, on était à la bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc toujours à Paris. Et c'était trop cool. Enfin, moi, j'en ai aussi quand même des vraiment bons souvenirs de cette émission-là. Déjà, je ne sais pas, c'était la deuxième qu'on faisait, donc moi, j'étais moins stressée. Et c'était trop cool. Enfin, je me souviens qu'on avait travaillé avec les étudiants de l'école Estienne. En fait, c'est étonnamment ça qui m'a vachement marqué aussi, même si on avait un plateau d'invités de ouf. Ils avaient travaillé sur des nouvelles de science-fiction.
Ouais.
Et on avait lu leurs nouvelles. Et on avait vraiment, je ne sais plus exactement, enfin, je sais qu'on avait vraiment fait un travail avec eux, en fait, sur ces nouvelles. Vous vous en souvenez ou pas?
Oui, je m'en souviens. Il y a des nouvelles qui m'ont... Enfin, je me souviens d'aucune nouvelle en particulier, mais il me reste un peu des images dans la tête que m'avaient laissé certains tests.
Non, je ne sais pas si on avait choisi chacun une nouvelle ou si c'était que moi. Mais moi, je me rappelle que j'avais choisi une nouvelle qui m'avait plu et que...
Non, c'était ça.
Ah ouais, avec l'étudiant ouais. qui l'avait écrite, était venu sur le plateau, en fait, et avait
c'est
parlé
ça.
De son texte et de son projet.
C'est ça, on avait chacun choisi une nouvelle, en gros, dans la liste, et on avait invité les étudiants à venir parler avec nous, c'était ça. Ouais, exactement.
Ouais, le projet global était cool, quoi. On était en partenariat avec la cité pour cette émission. C'était dans le cadre de l'année des lectures, il y avait l'école Estienne. En même temps, on avait fait notre programmation d'auteur. Enfin, je trouve que l'ensemble nous connectait avec d'autres partenaires, quoi. Et c'était ça qui était chouette aussi, c'était de sortir de notre petit studio pour aller à la rencontre d'autres gens.
Ouais, des gens qui n'étaient pas forcément comme les étudiants d'Estienne, qui n'étaient pas forcément dans le milieu de la littérature ou du livre, mais qui faisaient un truc qui touchait à la littérature. Enfin, c'était vraiment sympa, ouais.
Alors après, il y a des interviews là dans la liste qu'en fait j'ai fait moi en général avec en binôme avec l'un ou l'une d'entre vous, parfois trois, qui était trop. Enfin, moi que j'ai quand même trouvé ouf, genre Victor Dixon, quand même, quoi.
Ouais,
c'était trop chouette de pouvoir faire une interview avec lui. J'étais trop contente quand il nous a dit oui, enfin, quand on a eu le oui. C'était au Salon du Livre, en fait. Souvent, on a profité du Salon du Livre de Montreuil pour enregistrer des émissions, parfois un peu en avance, parce qu'on profitait de la présence des auteurs qui ne vivent pas forcément en France, en fait.
Genre, en plus, on était dans la petite salle presse du SLPJ, je me rappelle, on sentait trop important.
Oui, exactement. Ça va manquer, ça va être notre... On ne va pas avoir... le pass presse l'année prochaine, comment va-t-on faire? Ce qui était hyper pratique pour poser nos affaires.
Ouais.
C'est vrai.
Et rencontrer les auteurs. Donc, ouais, Victor Dixon, Lucie Pierre-Apageau aussi, que j'avais adoré sa série chez Gallimard. Donc, j'étais aussi trop, trop contente de pouvoir la rencontrer. Tout ça, c'est des trop cool souvenirs aussi. Alors, du coup, avant de passer à la saison 3. Je voulais vous faire, et Nathan et moi, en fait, on vous a préparé un petit quiz. Alors, je commence ou tu veux commencer?
Je peux commencer si tu veux, moi c'est un peu plus court et c'est vraiment, vraiment perso.
Vas-y.
En fait, j'ai replongé dans toutes les chroniques que j'ai faites d'albums. Enfin, je voulais un peu me remettre tout ça en tête et du coup, j'ai replongé dans tout ça, puis j'ai fait des mini-statistiques. Et en fait, je voulais compter, parce qu'il y a un peu une private joke qui est revenue tout au long de la bouquinerie jeunesse, qui était que je ne parlais que des fourmis rouges. Et du coup, je me suis demandé si vraiment je ne parlais que des fourmis rouges.
Donc, un éditeur, une maison d'édition, hein, pour les auditeurs, on reprécise, parce que les fourmis rouges, sinon, ce n'est point des
petits
insectes.
Et donc, j'ai compté, du coup, Alors, j'ai pas fait, on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais la dernière saison, j'ai pas compté parmi la dernière saison, parce qu'à chaque chronique, il y avait plusieurs, enfin 7 ou 8 livres que je présentais, pas que des albums, mais sur toutes les autres saisons où je présentais un album à chaque fois, où vraiment en plus il y avait un choix à faire, j'ai compté tous les éditeurs dont j'ai parlé. Et je me suis rendu compte, première info, que finalement j'avais été hyper divers. Donc j'ai compté une petite trentaine de chroniques, parce qu'après, comme il y avait des émissions spéciales, etc., c'était pas tout le temps une chronique d'un album. Et à votre avis, sur les... Alors je crois que c'est 28 chroniques que j'ai comptabilisées. À votre avis, sur les 28, il y a combien d'éditeurs différents?
Ah,
petit chiffre.
Une dizaine, je pense, au moins, quand même.
Une quinzaine, moi, je dirais.
10. Moi, je dis 10.
Entre
et à 15.
10 et 15.
Moi, je dis 17. Allez.
Oh, OK.
Eh bien, écoutez, c'est 21 éditeurs.
Wow.
Tu me lances des fleurs, j'en profite.
Incroyable.
Et le pire, c'est que il n'y a aucun tableau Excel dans l'équation. Je n'ai pas compté pour faire attention à... Donc, j'étais assez content. Et du coup, la deuxième question, c'est, à votre avis, quels sont les top éditeurs, ceux dont j'ai parlé plusieurs fois?
Les fourmis rouges.
Les fourmis rouges.
C'est quand même bon.
Vous avez d'autres idées?
On a quand même un point sur ça.
Ouais, bah, les fourmis rouges, évidemment. Je vous dirai les détails après.
Et sinon, je dirais peut-être Gallimard.
Non, pas de Gallimard.
Cambourakis?
Non.
Un.
Bah écoutez, les fourmis rouges, effectivement, en toute première place, mais j'en ai parlé trois fois.
Franchement,
je me suis tenu quand même, non?
Ah bon? Ouais.
Je pense que j'ai triché en le mettant partout dans la dernière saison, en en parlant, à mon avis, ici et là, quand on parlait de nos maisons d'édition préférées, etc. Mais du coup, je tiens quand même à ce qu'on se rappelle que je n'ai pas fait un lobby des fourmis rouges.
Ah, derrière, est-ce qu'il n'y a pas Sarbacane?
Non, même pas. Derrière, il y a quatre éditeurs.
L'école de loisirs.
Toujours pas. Derrière, il y a quatre éditeurs dont j'ai parlé deux fois. Il y a Milan, il y a Albin Michel Jeunesse, il y a Le Seuil Jeunesse, il y a Thierry Magnier.
Ah oui, Thierry Magnier, ouais. Mais ouais. Ok. Ouais.
Et ben, bravo. J'étais assez surpris, moi aussi, j'aurais pas mis. Donc voilà, et après, la petite question bonus, je pense pas que vous allez trouver, mais on sait jamais. Il y a une autrice dont j'ai parlé deux fois. À votre avis, qui c'est? Allez, pour vous aider, je dis c'est une illustratrice. Mais c'est vraiment difficile.
Magali
Le Huche. Magali Le Huche, bravo.
Très fort.
Effectivement, il y a eu Le Tango d'Antonella, je crois, chez Sarbacane, et l'autre, ça devait être Les Habitants des Autres Planètes ou quelque chose comme ça qui est aux Fourmis Rouges.
Ouais.
Voilà. C'est mon petit quiz.
Alors, à moi, c'est une question plutôt facile, enfin, j'en sais rien, j'imagine. Est-ce que vous vous souvenez qui a été notre première invitée en émission confinée?
On a le droit de tricher.
C'est-à-dire tu peux tricher.
Mais c'est pas Build Up?
Oui. Ouais. Exactement.
Ah oui. C'était sur son projet live pendant plusieurs jours, c'est ça?
Ouais. Mais on va en parler dans 5 minutes quand on va parler de la saison 3.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce que vous vous souvenez qui est le seul auteur qui nous ait fait un cadeau?
Ah oui, Erwan J.
Tout à fait. Erwan J.
De bouffe, ça c'est bon, je m'en souviens.
Erwan J, beaucoup trop chou, c'est le seul auteur qu'on ait invité et qui est venu avec des caramels. Il nous a offert des caramels.
Ah, de Bretagne, mais oui. Trop gentil.
Combien de fois Anne-Fleur Multon est-elle venue dans l'émission?
Ah mais oui, mais j'entendais ton début de récap tout à l'heure, je me disais c'est trop notre star, elle.
Trois.
Ouais. Moi, je dirais trois aussi.
Exactement.
Elle était là la nuit de la lecture.
Ah ouais. Ouais, la nuit de la lecture, ouais.
Elle était à l'émission Harry Potter.
Exactement.
En fait, elle a fait tout notre.
Elle a eu son émission à elle.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Il y a une deuxième autrice qui est venue deux fois. Mais c'est donc. Vous voyez ou pas? Vous avez idée ou pas?
Je sais. Ouais. Juliette Evno.
Ah, non, c'est Nine.
Ok, alors il y a plein d'autrices. En fait, il y a trois autrices qui sont venues. Alors effectivement, vous avez raison, il y a Nine. Marie, elle est venue deux fois? Peut-être.
Marie, je ne sais plus.
Non, Marie, je crois pas.
Marie, je crois pas, non. Je crois que Marie, elle est venue juste pour l'émission de la nuit de la lecture. Mais Nile, elle est venue deux fois.
Ouais.
Oui.
Et en fait, Anne-Laure Bondo aussi est venue deux fois.
Oui.
Elle est venue à la première émission et elle est venue une deuxième fois.
Pour un battle avec Jean-Claude Morleva.
Exactement. Et d'ailleurs, en réalité, il y a quatre auteurs, dont deux duos, qui ont joué le jeu de présenter le roman de l'autre dans une sorte de nos livres contraires. Donc, est-ce que vous vous souvenez qui? Donc, on a... Effectivement, Anne-Laure Bondo, Jean-Claude Morleva. Et vous vous souvenez de l'autre binôme ou pas?
Il y a Manon Fargeton et
Jean-Christophe Tixier.
Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous savez même, peut-être, vous ne savez pas? Il y a un invité qui a oublié l'interview.
Waouh.
Quoi?
Genre, qui ne s'est pas pointé ou qui a oublié, qui avait oublié
Oui, qui m'a laissé attendre... Voilà, qui a oublié quoi. Après, on s'est retrouvés et on a fait l'interview, mais du coup, moi, je m'en souviens plus particulièrement, puisque c'est moi qui l'ai
répondu.
Est-ce que c'est pas Lilian?
Si, exactement.
Bravo, je me rappelle plus cette histoire.
Bravo. On le pardonne, hein, vous savez, dans la folie de Montreuil, on oublie parfois, c'est normal, enfin, vraiment, je le pardonne, mais voilà pour la petite blague. Et pour finir, un petit le juste prix. Combien d'invités sont passés derrière notre micro. Et donc, je compte les petites interviews au SLPJ, mais pas les micro-trottoirs, j'en parle vraiment des invités, vous voyez, des noms, genre les auteurs, les éditeurs, les tout ça. Wow. Dites, alors, un chiffre, hein, évidemment, approximatif, enfin, on verra qui est le plus près, quoi. J'ai dit un peu en introduction, j'ai dit en réalité un chiffre en introduction.
Auteur juste?
Non, invité. On compte aussi Noémie, Bélanger qui était venue, etc.
Je vais dire 112.
Quoi? Attends, mais on y a eu beaucoup. Premièrement, il y a eu 35 émissions. Donc,
J'ai cru que c'était 50. Bon, bah alors je vais dire 80.
Mais on n'a pas eu deux invités par émission?
Bah quand même, non? Il y a des fois, on en avait trois ou quatre, les spéciales et tout.
Ouais.
Bon, j'ai été trop. Ok, bon, bah, c'est pas grave. J'ai dit ce chiffre par plus pour moi.
Oui, les filles.
Allez, moi, je dis 50.
Ok, Christelle.
Moi, j'allais dire 60 à peu près.
Ouais, 47, en fait. C'est Léa qui a raison.
Ah, bien joué, Léa.
J'ai dit vraiment au pif.
Mais comme tu nous as dit, les éditeurs, les mini chroniques.
Ouais, moi aussi, j'aurais dit plus, en vrai.
Bah, en fait, il y a eu 35 émissions, donc voilà, ça fait 47 invités.
Après, il y avait les
invités,
interviews,
quoi.
Les pépites de Montreuil, on faisait des trucs des fois.
Ah, ça, j'ai pas compté.
Ah oui.
Et ben voilà. C'était mes chroniques, ça, c'était les albums.
Effectivement. Donc peut-être que c'est plus, du coup.
Ouais,
on vous laisse aller
compter.
Hein.
Je vais y en avoir 33 de plus, du coup, c'est moi qui ai raison.
Au moins 33, oui. Alors, on passe à la saison 3. La saison 3, c'est l'émission confinement. Donc, nous avons reçu, ça commençait très bien, Fabrice Collin, Flore Vesco, les éditrices de La Cabane Bleue. Ensuite, on a fait un best-of de nos livres contraires et puis on a reçu Emily Bulldop. Parce que c'est l'émission. Donc, déjà, c'est notre passage à un épisode par mois. Puisqu'en fait, les deux premières saisons, on a tenu un rythme intense qui était d'un épisode par mois. Et c'était très intense pour nous, donc on a décidé de baisser le rythme. Et est arrivé sur ce le confinement. Donc en fait, c'est l'année où on a fait le moins d'émissions au final. Est-ce que vous vous souvenez quand même un peu de cette saison 3?
Mais les premières, c'était quelle année? On n'était pas encore confinés sur les premières?
Non, sur les Fabrice Collin, Flore Vesco et La Cabane Bleue, c'était pas encore le confinement.
Ouais.
Au confinement, ensuite, on a fait un best-of du coup, nos étoiles contraires, nos livres contraires, pardon.
Ouais.
Le temps, effectivement, le temps de se demander de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, enfin, voilà.
Et après, ouais, y a eu celle avec Bulldog qui vraiment était la toute première, confinée, en Zoom, en Teams, machin.
Exactement.
Ouais. Ouais, moi, je me rappelle de cette année parce que c'est les Vermeils de Camille Jordi qui avaient gagné la pépite à Montreuil, il me semble. Et c'était une bande dessinée pour la jeunesse. Camille Jordi, c'est une de mes autrices de BD préférées. Et en fait, j'avais chroniqué son album pour l'émission qui était en lien avec le SLPJ et j'aurais vraiment aimé l'interviewer, mais comme elle a gagné la pépite, elle n'était pas du tout dispo sur le salon, donc ça, c'est un peu un de mes regrets. Voilà. Comme j'adore cette autrice, j'ai plein de dédicaces d'elle, j'ai toutes ses BD à la maison et tout, et ça m'aurait tellement fait plaisir, mais bon, des fois, les étoiles ne s'alignent pas. Peut-être qu'un jour, voilà.
D'ailleurs, c'était une des questions qu'on avait dit qu'on se poserait. C'est quel auteur ou illustrateur, quel invité vous auriez adoré, vous auriez rêvé de recevoir? Léa, c'est Camille Jordi, du coup?
Là, tout de suite, maintenant, de trucs un peu manqués, ouais, Camille Jordi ou Théo Grosjean, un des deux. Mmh. Théo Grosjean, qui à l'époque avait pareil gagné une pépite avec Un gentil orque sauvage. Et aujourd'hui, son boulot, il a explosé à ce jeune auteur de BD. Il a fait une série sur Canal. Il a plein d'albums chez plein d'éditeurs différents. Enfin bref, c'est. Comment dire, c'est, il a une série d'animation qu'il a produit lui-même qui s'appelle Flipper. Il a un compte Instagram où il y a des milliers de gens qui le suivent. Enfin, c'est vraiment, ouais, ça, c'est les deux auteurs que j'aurais vraiment aimé rencontrer en BD.
Christelle ?
Non, on l'a cité, mais on ne l'a pas vraiment reçu comme invité. C'est Jean-Claude Mourleva. Franchement, je pense que c'est déjà. Il a eu récemment le prix Astrid Lindgren, donc l'équivalent du prix Nobel de la littérature jeunesse, un prix mondial, voilà. C'est lui qui l'a eu, c'est un auteur que j'admire mais énormément, que je vénère. Et en plus, c'est un super conteur et raconteur, même de son processus d'écriture. L'entendre parler, c'est un mec qui a fait du théâtre, qui a été sur les planches et tout. Quand il parle, il y a un silence qui se crée autour, qui est d'une qualité vraiment géniale. Donc ouais, j'aurais bien aimé le recevoir, mais c'est un petit peu... un ermite qui aime vivre tranquille dans sa campagne.
Effectivement, il est venu, ils ont fait l'espèce de petit duel avec Anne-Laure Bondou. Mais je ne sais pas si tu avais pu venir en plus, Christelle, c'est moi qui l'avais fait, je crois. Hein.
Je ne sais même pas si
je crois que j'étais toute seule. Mmh. Et toi, Nathan?
Alors moi, je ne sais pas trop. J'aurais peut-être dit soit un ou une illustratrice d'albums, parce qu'on n'en a pas eu tant que ça. Donc, par exemple, quelqu'un comme Delphine Perret, qui a écrit Bjorn, qui est un de mes albums préférés au monde. Qui est évidemment au fourmis rouge. Ou alors peut-être Amélie Fléchet et Jonathan Garnier qui ont écrit Les Bergères guerrières. Ça aurait été trop cool parce qu'ils sont très sympas. Je les ai rencontrés à Montreuil, ils sont hyper, hyper gentils. Et leur série de BD est dingue, quoi. Donc, qui est terminée maintenant, dont le dernier tome a eu un prix à Angoulême d'ailleurs. Mais je pense que ça aurait été cool. Et toi, Laetitia?
Ben moi, ma petite, ma frustration divine, c'est Pierre Bottero.
Ouais,
voilà, pas possible. Du coup, on a reçu, enfin j'ai eu la chance du coup incroyable d'aller interviewer Lilian, qui est le scénariste des BD du coup, et Willan et Lana.
C'était. Mais vous savez, après des années et des années d'inculterie, parce que je n'avais lu que le premier tome de La Quête des Willan, je me suis lancé pendant ces vacances dans lire Bottero. Et là, j'en suis au monde des Willan.
Oh mon Dieu.
Je vous le révèle.
Attends, on s'en parlera tout à l'heure parce que sinon, on part pour une heure
sinon
supplémentaire.
Sinon, on part pour 2 heures.
Ça ne marchera pas.
Mais je suis en train de tout dévorer.
Incroyable, incroyable. Et ben, génial. Et sinon, plus réaliste, rendez-vous un peu raté, Christelle Dabos, parce que figurez-vous que franchement, on n'est à chaque fois vraiment pas passé loin de la voir, honnêtement.
Ouais.
Ou plusieurs contacts avec son attaché de presse, avec elle directement. Ça n'a jamais fonctionné. Voilà, mais on n'est pas passé loin, donc ça c'est pareil, une petite frustration du truc qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait, mais bon, voilà. Alors, on passe à la saison 4, on arrive bientôt à la fin. Saison 4, Timothée de Fombelle, Vincent Villeminot, Julia Thévenot, Sengsun Ratanava et Marie Réplin. Là, cette saison-là, c'est un nouveau rythme, c'est les derniers Nos Livres Contraires. Et cela dit, c'est un peu la reprise après justement l'année un peu pourrie par le confinement, le Covid et tout. Des choses à dire sur cette année-là.
C'est qui le premier invité, tu as dit?
Timothée.
Timothée,
c'est ton auteur.
Timothée, ben enfin. Alors, écoute, j'ai préparé une petite feuille avant l'émission, j'ai mis Timothée avec un cœur. Parce que c'était celui qu'on s'était dit un jour, il faut qu'on l'ait. On attendait la bonne occasion, je me souviens.
Carrément.
Et là, c'était pour son album ou pour Alma?
Alma.
Pour Anna, on s'est dit, bah là, ça y est, it's time, quoi. Et celle-ci, c'était en studio, oui.
Oui, oui.
Ah, c'était...
Je m'en souviens très bien. Alors, vous voyez que j'ai vraiment pas une super bonne mémoire. Je me souviens très peu de choses. Je me souviens de plein de petits détails, genre la meuf qui cite un nom de machin. Mais alors, les gros trucs, ça m'échappe complètement. Et l'émission avec Timothée de Fourbelle fait vraiment partie de celle dont je me souviens le mieux. J'ai vraiment des images et même des phrases et tout qu'il a dites. Et pareil, en fait, un peu comme Jean-Claude Bourleval, lui aussi, c'est un homme de théâtre, hein, je crois. Et pareil, quand il parle, t'as juste envie de l'écouter, quoi. Ça dure une heure, mais t'as envie que ça dure 6 heures. Et même au bout de 6 heures, t'as envie que ça dure 12. Enfin, c'était vraiment génial.
Carrément, je suis trop d'accord. Enfin, pareil, moi, c'est une de celles qui m'a vachement marquée. J'étais trop impressionnée de l'interviewer. Enfin, c'était... Non, franchement, c'était ouf. Trop, trop bien.
Et en même temps, hyper accessible et simple.
Carrément.
Et bon, comme tous les auteurs qu'on a reçus, hein, mais c'est vrai que de la part d'un grand monsieur de la littérature jeunesse, c'est d'autant plus impressionnant.
Et celle avec Sengsun Ratanava, c'était une des, si je ne me trompe pas, une des toutes premières qu'on a faites sur Zoom vraiment avec un auteur. Et je me rappelle qu'il y avait un truc un peu. On était un peu stressés. En même temps, elle était aussi perdue par le principe et en même temps, elle était adorable. Enfin, je ne sais pas pourquoi, il m'a un peu marqué cet enregistrement.
Ouais.
Et... En plus, elle aussi, elle a une œuvre en album qui est assez
qui est super. Carrément.
Ouais, moi j'avais découvert son travail grâce à cette émission et adoré. Et ouais, elle avait été vraiment adorable. Du coup, c'était hyper rassurant d'être justement pour la première fois avec un auteur qu'on connaissait pas bien. Parce que tu vois, par exemple, toi, Nathan, tu connaissais déjà Timothée. Ça aide des fois d'avoir des auteurs qu'on connaissait un peu ou avec qui on avait déjà discuté en dehors de l'émission. Et cette autrice-là, du coup, aucun d'entre nous la connaissait. Donc, il y avait ça, il y avait le fait que c'était via écran interposé et tout. Et en fait, ça s'était hyper bien passé. Elle avait été adorable. On avait discuté de plein de trucs passionnants. Enfin, c'était assez rare, comme tu as souligné, qu'on reçoive des illustrateurs et des illustratrices. Et du coup, c'était vraiment chouette.
Carrément. Oui.
Non, j'avais beaucoup aimé rencontrer aussi Vincent Villeminot. Et puis, c'était à distance aussi.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire l'avantage, par contre, de ces nouvelles, de ce nouveau format qui nous autorisait à plus être en studio, c'est qu'on a pu interviewer des gens comme Vincent Villeminot, qui lui était pas du tout à Paris en fait quand on a fait de l'émission. Et ça, c'était top. On aurait pu avoir mon leva, tu vois, Christelle.
Est-ce qu'il a la fibre dans son trou perdu? Mais ouais, ça me fait penser que même si on n'avait plus ce côté voilà un peu informel où on rencontrait vraiment les auteurs pour discuter avant ou après l'émission avec eux. La visio, d'un côté, ça nous faisait un peu entrer dans leur intimité parce qu'ils filmaient chez eux. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on voyait un peu le décor de chez eux. Vincent Villeminot, je crois qu'il parlait à ses ados qui étaient là, qui passaient dans la pièce.
Oui,
il laisse la pièce, donc je laisse la pièce parce que ma fille, elle doit prendre l'ordi ou je ne sais plus quoi.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié.
C'était un autre type de rencontre, mais qui était sympa aussi.
Ouais,
carrément. Et on arrive à la dernière saison. Celle-là, elle est fraîche, je pense, dans vos esprits. On a reçu Florian Soulas, Alexiane Delis, Camille Brissot, Estelle Faye et Adji Twice.
Alors, attends, est-ce que sur les saisons précédentes, on n'a pas assez parlé de nos livres contraires, quand même, je
trouve. Oui, c'est clair,
vrai,
c'est ce que
on pouvait en parler, si vous voulez.
Ouais, parce que quelque part, j'avais l'impression que c'était la rubrique de l'émission. Bon, personnellement, disclaimer, c'était la chose la plus dure à écrire, en fait. C'était hyper dur à écrire, nos livres contraires. Mais c'était le truc qui nous éclatait le plus. Et j'ai l'impression qu'il éclatait le plus les gens qui nous écoutaient dans les retours qu'on pouvait avoir, en tous les cas. Et du coup, à chaque fois, c'était là, oh là là, qu'est-ce que je vais dire, quel bouquin je vais trouver et tout. Et à la fin, j'étais toujours super contente d'avoir réussi à sortir des trucs drôles et d'avoir réussi à créer des faux clashs, en fait. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, mais voilà.
Ce qui n'était pas évident, c'était de trouver à chaque fois des nouveaux livres et des nouveaux personnages à se faire s'affronter, tout en restant dans des références que tout le monde connaît. Pour que tout le monde puisse capter les petits clins d'œil, les références et tout, sans trop se répéter sur des thèmes qui étaient parfois un peu de niche. C'était beaucoup aux thèmes qu'on allait pouvoir choisir, mais c'est vrai que c'était à la fois difficile à écrire et hyper jouissif parce qu'on partait un peu dans des délires
hyper drôles.
Complètement absurdes. Et franchement, le moment le plus drôle quand tu écrivais, c'était en fait de recevoir, parce qu'on s'échangeait en fait nos petits paragraphes en amont entre nous pour essayer d'adapter les transitions et tout. Et quand je recevais les textes de Nathan Ollier, je me marrais en les lisant.
Et en même temps, tu avais envie de bien bastonner derrière.
Ouais.
Et puis, il faut dire que je ne sais pas si on a fait un décompte final, mais je pense que Christelle, tu as été un peu la challengeuse de...
Ouais, Christelle, ça clashait bien.
J'aurais trop voulu, je suis hyper déçue parce que je voulais recompter et vous dire qui avait gagné au final. Et en fait, mon ordinateur qui a tous les anciens fichiers a planté et du coup, je n'ai pas pu faire le décompte. Je suis désolée, je ne sais plus qui a gagné au final. Du coup.
Pas grave, l'important, c'était de participer.
Ouais, en plus, c'était les auteurs qui votaient, qui départageaient parce qu'on faisait voter les auteurs. Donc, c'était une petite battle littéraire en gros. Et on faisait voter les invités. Donc, c'était très drôle. Souvent, il y en a qui ne voulaient pas trop se positionner. Il y en a qui osaient, qui se disaient, oh là là, je vais vexer quelqu'un.
Ça révèle bien les caractères.
La majorité a joué le jeu, en réalité.
Je me demande d'ailleurs si je n'avais pas choisi Toby Lannes quand il y avait Timothée de Fombelle, en gros faillot que je suis. Il me semble qu'il y a un bail un peu comme ça.
Oui, parce que toute triche était permis. Enfin, voilà, c'était...
Ah ben, ça a réveillé nos visages, nos faces cachées.
Exactement. C'est le règne de la mauvaise foi. Hein, de toute façon.
Exactement. Et ben, je vous encourage à aller écouter, si vous voulez, il y a un best-of Nos Livres Contraires, donc qui est en saison 3. Si vous voulez aller écouter les meilleurs moments, j'avais fait un petit montage best-of.
Et c'est vrai que sur cette saison, du coup, on a changé de formule.
Ouais, exactement.
Finalement, on a arrêté l'émission, mais on avait un peu l'envie aussi de renouveler l'émission au bout de 4 saisons, quoi.
Exactement. Donc, c'était des nouvelles rubriques, des nouvelles. Donc, on a arrêté nos livres contraires qui étaient effectivement hyper prenants à faire et hyper, un peu longs, quoi. On a complètement changé de rubrique. Ça vous a plu, vous, du coup, ces nouvelles rubriques?
Bah ouais, moi, c'était plus la chronique d'un livre, mais une espèce de bibliothèque idéale que personne n'a jamais comprise. Mais
si, les derniers invités, ils ont compris.
Ouais, et Edgy Twice, ils ont été parfaits. Non, bon, après, c'était un peu le petit running gag, mais ce qui était chouette, c'est que ça permettait à la fois d'être plus spontané, puisque en fait, je passais moins de temps à l'écrire, je choisissais 7-8 titres, et puis bon, je notais 2-3 idées, mais en vrai, j'improvisais pendant l'enregistrement. Et donc, c'était aussi chouette de devenir un truc un peu plus spontané pour la dernière saison de mon côté. Et puis, ça permettait de citer plein de livres aussi, parce que des fois, c'était compliqué d'avoir un thème et d'aller choisir un album. Il y avait des thèmes qui, parfois, n'étaient pas évidents, je ne sais pas, sur la technologie ou sur... Enfin, je sais pas, il y avait des thèmes qui ont été un peu difficiles des fois. Et là, ça permettait de partir d'un auteur, à la fois de sa vie et de son œuvre, et du coup, d'avoir plein de thèmes et de pouvoir citer plein de livres, à la fois des trucs récents et des... Enfin, je trouve que c'était moins frustrant aussi de... Il n'y avait pas un choix à faire, quoi. Bon, c'est un autre exercice.
Ouais, moi, je suis passée du coup des chroniques de romans au portrait d'auteur. Alors, pour plusieurs raisons, c'était que, en fait, pendant 5 ans avant ça, j'étais, vous le savez, j'étais rédac-chef de la revue Lecture Jeune, qui est donc une revue sur les littératures ados. Et donc, c'était hyper pratique pour moi d'avoir tous les romans ados qui arrivaient directement dans la boîte aux lettres du boulot et de pouvoir faire mon choix là-dedans et d'être vraiment à jour sur ce qui sortait. Et donc, j'ai quitté mon job en juin et quelques mois plus tard, je suis partie vivre en Irlande. Donc vraiment, je savais que j'allais plus du tout avoir accès aux nouveautés et plus avoir la possibilité de vraiment être à jour. Et ça m'embêtait aussi de ne pas avoir accès, voilà, un peu l'ensemble, ou du moins une grande partie des nouveautés pour faire mon choix et de juste aller prendre un livre, de le lire et d'en parler. Je sais pas, ça me semblait un peu moins représentatif et aussi j'avais plus le temps avec le déménagement. Et du coup, on est passé à cette idée de portrait des auteurs invités et j'ai adoré les écrire. Franchement, je me suis trop amusée à chaque fois. C'est le portrait pareil de la mauvaise foi.
C'était trop bien.
La continuité de nos livres contraires sans le clash, pour moi.
Je pense que les auteurs, ils étaient ravis en plus. À chaque fois, ils étaient ravis d'entendre leur propre histoire. Narré, parce que finalement, à chaque fois, tu es douée pour écrire, Christelle, donc tu faisais un portrait un peu narratif. Et je pense que ça les... enfin, je pense que c'est hyper valorisant et drôle et un peu cool quoi, d'avoir son propre portrait dressé comme ça.
Surtout celle d'Edgy Twice pour conclure, qui ont vraiment une vie de roman. C'était un peu le blockbuster de tes biographies. Quoi.
Pour le coup, j'ai pas eu à écrire grand-chose, enfin, inventer grand-chose, parce que vraiment, leur histoire était déjà tellement romanesque qu'elle tout en rajoutait beaucoup. Mais une que j'ai beaucoup aimé écrire aussi et j'ai pas pu être à l'enregistrement, je sais plus pourquoi, c'était celle de Camille Brissot.
Ouais. Ah oui,
ouais, ouais. Elle était super drôle à écrire parce qu'en fait je suis allée fouiller vraiment dans son blog qu'elle avait à peu près oublié ou qu'elle s'était dit c'est bon, je vais pas supprimer des trucs, personne va voir cette page, elle sert plus à rien, et je suis allée fouiller genre sur des trucs depuis 2013, des anecdotes de billets de blog qu'elle écrivait il y a 10 ans, et c'était assez marrant d'aller fouiller là-dedans. Et du coup, c'était dommage parce que je n'ai pas pu être à l'enregistrement, mais vous lui avez passé le pré-enregistrement de son portrait. Et après, elle était trop sympa. Elle est venue m'écrire sur Instagram pour me dire « c'est la meilleure bio qu'on m'ait faite
ah !» Après, ils vont tous t'écrire pour écrire leur bio dans les romans.
Ouais, ça, c'était génial. Enfin, je pense aussi que ce changement, il s'est bien fait. Et toi, Léa, un peu comme Nathan, du coup, tu as diversifié un peu ta chronique.
Ouais, c'est ça, moi, effectivement, un peu comme Nathan, au bout de 4 ans, faire que des chroniques de BD, sachant que, bon, évidemment, j'adore la BD, et je travaille dans la BD, mais c'est pas... enfin, il y a plein d'autres trucs que j'aime dans la littérature jeunesse, forcément, plein d'autres genres, pour plein de tranches d'âge, et du coup, ouais, ça m'a... Moi, le concept de ma chronique, c'était plus dégager un thème de l'œuvre de l'auteur qu'on recevait, et commenter, enfin choisir des bouquins qui évoquaient également ce thème dans le paysage de la littérature jeunesse actuelle. Et ouais, c'était cool de parler de romans, de parler de romans pour les tout-petits aussi, de parler d'albums, et un peu de dire des trucs autour de ce thème, comment ce thème il est traité dans la littérature jeunesse, c'est quoi les enjeux qu'on y vit, c'est quoi l'histoire de ce thème, voilà, c'était assez intéressant. J'étais contente de changer aussi. Voilà.
Et ben voilà, et ben écoutez, ça va bientôt être l'heure de dire au revoir. Pour terminer, on peut parler un peu des projets de chacun, de pourquoi on arrête. C'est parce que voilà, vous avez compris, on a tous plein de projets chacun de notre côté, et que je pense que voilà, 7 ans d'émission, on est très loin d'avoir fait le tour. Hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt qu'on a plein d'autres projets chacun de notre côté, donc plus trop le temps et l'énergie à investir dans celui-ci. Vous voulez dire un peu vos projets ? Christelle, tu veux parler de l'autre podcast, du coup ? Un nouveau podcast ?
Oui, du coup, j'ai lancé avec une partie de l'équipe, donc avec Laetitia et Léa et 2 autres amies écrivaines, Marie et Laure, un nouveau podcast qui s'appelle « Le club où on discute d'écriture sans filtre ». C'est le premier dimanche de chaque mois et on se réunit à distance et bientôt en live pour discuter d'écriture sans filtre. Donc voilà, pour discuter de nos processus d'écriture, de nos galères, des doutes et des questions qu'on se pose, montrer vraiment, rentrer dans la cuisine de l'écriture, aller mettre les mains dans le cambouis, pas avoir peur de dire quand ça nous gonfle, quand ça nous saoule, mais aussi voilà, les petites victoires, les moments sympas, échanger, se conseiller les unes les autres, s'encourager. Se moquer un peu de soi-même aussi en sortant à chaque fois les trucs les plus débiles qu'on ait écrits. Voilà. Donc l'idée, c'est de se décomplexer, de décomplexer les auditeurs. Et voilà, je suis super contente parce que c'est aussi un espace pour discuter de littérature, d'écriture, voilà, sous un autre angle. Donc on continue un petit peu ces rencontres radiophoniques sous un autre format.
Même si j'ai reçu le message d'un auditeur qui nous disait « C'est bien, mais il n'y a plus Nathan !»
Oh, oh non.
C'est adorable ça. Mais oh. Moi, je suis devenu un auditeur assidu, donc je vous conseille d'aller écouter évidemment. Et je dis ça en toute objectivité.
Toi, Nathan, t'as des projets que tu veux partager? Ah, Nathan a bugué.
Je crois que Nathan
attends,
a
pardon, j'ai bugué. Je suis de retour, vous m'entendez?
Ouais, on t'entend, c'est bon.
Vas-y. Des projets que tu veux partager?
Ben moi, de mon côté, l'une des raisons pour lesquelles ça m'allait qu'on arrête, c'est aussi que j'ai un boulot à temps plein à côté, puisque je travaille pour babelio.com, le réseau social des lecteurs que vous connaissez sans doute. Mais j'ai aussi plein d'autres projets à côté avec Tom, donc mon frère jumeau, avec qui on a créé les éditions du Grand Peut-être. Donc, on a sorti En quête d'un Grand Peut-être, qui est un guide de littérature ado. On travaille sur une expo itinérante sur la littérature ado. Et on a plein d'autres projets secrets dont on pourra parler un jour.
Trop bien.
On va parler de littérature ado partout.
Yes. Et toi, Léa?
Moi, j'ai des projets. J'en ai plein en ce moment. Mais j'ai des projets donc d'écriture. Je me suis vachement remise à l'écriture depuis l'année dernière. Donc ça prend du temps. Puis je continue à dessiner à côté. En ce moment, j'ai des projets d'adopter un animal. Donc j'investis du temps là-dedans aussi. Voilà, plutôt des choses perso, pas des choses aussi ambitieuses que celles de Christelle et Nathan, mais...
Attends, si tu sors un livre un jour, tu vas peut-être devenir une star de la radio.
On en est bien loin, Nathan, on en est bien loin.
Et toi, Letty?
Eh ben moi, mes projets, c'est surtout écriture, puisque c'est vrai qu'on n'a même pas précisé, mais entre eux, il s'est passé des choses en 7 ans. En 7 ans, quand même, sur 4 membres de l'équipe, 3 ont publié un bouquin. C'est quand même un truc de fou. Donc voilà, moi, je me lance un peu à fond dans l'écriture avec mon premier roman qui est sorti en février, mon deuxième qui sort en novembre. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et donc, il faut les écrire. Oui. Donc voilà.
Et toi, Christelle, quand sort ton deuxième livre?
J'ai pas de date encore. Je viens à peine de le rendre à mon éditeur. Donc voilà, c'est encore dans les coulisses.
Bon, écoutez, merci. Merci à tous les 3. Merci 1000 fois. Du coup, moi, je veux vous remercier. Enfin, je vous remercie hyper de façon de tout mon cœur, quoi, tous les 3 d'avoir accepté il y a 7 ans de participer à cette émission et d'avoir tenu aussi longtemps. Je sais que j'ai été chiante sur les deadlines, les horaires, les rendez-vous, les chroniques et tout, mais...
Je rigole, pas du tout.
Génial.
T'es notre reine organisatrice.
Ouais, grave.
Sans toi, rien de tout ça ne serait arrivé.
Exactement.
Bah oui, merci à toi, Laetitia. C'est toi qui as imaginé cette émission, qui l'a construite, qui l'a menée, qui l'a organisée, qui l'a tenue parfois à bout de bras, qui nous a boosté quand on avait besoin, qui nous a proposé d'en faire partie, parce que sinon, on aurait écouté ça avec plaisir, mais on n'aurait pas fait partie, donc... Merci à toi
qu'on a rencontré tous ces grands auteurs, illustrateurs, autrices, illustratrices, qui nous font rêver depuis qu'on est tout petit. Et ça, sans toi, ça ne serait pas arrivé. Donc, merci.
Ouais, moi, je me rappelle encore du jour où on a été boire un café. J'allais commencer mon tout premier taf et tu me proposais ce projet qui, en plus, était à 2 pas de mon premier taf. Et tu t'en avais déjà parlé à Christelle et Léa que tu connaissais plus. Et tu m'as pitché le truc et moi j'étais là trop bien de la radio, c'était pile ce que j'avais envie de faire. Enfin, je m'en rappelle trop de ce café là, c'est marrant. Enfin, c'était peut-être plus une bière d'ailleurs.
écoutez, je suis un peu émue du coup que ce soit on se dise au revoir, que ce soit la dernière. Après, on reste évidemment en contact. Je voulais aussi remercier Chloé et Marion qui ont été respectivement nos community managers. On a essayé d'agrandir l'équipe pour nous aider justement à gérer aussi la partie réseaux sociaux, parce que comme on disait, le paysage a vachement évolué en fait pendant ces 7 années. Évidemment, remercier Radio Campus Paris qui a permis cette aventure, parce que je me souviens encore moi du coup de l'entretien que j'ai eu avec la rédac' chef à l'époque pour présenter tout le projet et qu'ils acceptent de nous donner un créneau. Donc vraiment merci à eux, et puis les émissions en direct, les réalisateurs, le studio, enfin voilà, pareil, ça n'aurait pas été possible sans eux. Et évidemment, les auditeurs, vous qui nous avez suivis parfois depuis le début. Je sais qu'il y en a certains qui écoutent l'émission depuis le début. Merci 1000 fois de nous avoir envoyé d'avoir réagi, de nous avoir envoyé vos commentaires, d'avoir participé à l'antenne dans les premières émissions. Et puis du coup, je vais conclure par une citation. Alors, j'en trouvais que des tristes. J'en voulais une pas trop triste. donc, elle n'est pas triste, finalement. Et je voulais une citation d'Anne-Laure Bonzou pour terminer la marraine de notre émission. Donc, c'est une citation des Larmes de l'Assassin. Et ça dit: les poètes aussi savent transformer les choses. Ils posent leurs yeux sur le monde, puis ils l'absorbent comme un breuvage. Quand ils se mettent à parler, alors, plus rien n'est pareil. C'est une forme d'enchantement. Je m'applique chaque jour à regarder le monde avec ces yeux-là. C'est ce qui me sauve.